Histoire de peinture. Aujourd'hui, Vermeer, fin et flou.
Pourquoi avoir écrit sur Vermeer, alors que je m'occupe plutôt de Renaissance et de Renaissance italienne, hein. Bon, certainement, il y a un goût ancien. Je pense qu'un des tableaux qui m'a toujours plus, que je puisse me rappeler, c'est la jeune fille à la perle de Vermeer, avec d'une beauté, d'une douceur qui, quand j'avais 15 ans, me rendait amoureux de la jeune fille, hein, pas du tableau, mais de la jeune fille. C'était très, très, très étrange. Bon. Aussi la dentelière. Ça, j'étais un peu plus grand. La dentelière m'a toujours fasciné. Et quand j'ai eu la phrase de Lacroix sur la silencieuse puissance de la peinture, curieusement, j'ai pensé à la dentelière. Bon, donc voilà, il y a seulement un goût ancien. Et puis ce goût ancien, très individuel, très personnel, a été renforcé, mon désir d'écrire a été renforcé, je dirais aussi simplement par l'agacement, hein, devant certains discours tenus sur Vermeer. Alors, bien sûr, sur le mystère, Vermeer, le sphinx de Delft, hein, comme on l'avait appelé au XIXe siècle, et ce mystère qui autorise écrivain ou amateur à dire n'importe quoi, hein, sur la peinture de Vermeer. Alors, on apprend beaucoup sur l'auteur qui écrit sur Vermeer, mais très peu sur Vermeer. Je pense en particulier à cet auteur, par ailleurs tout à fait intéressant, américain, qui a écrit sur Vermeer et qui, veut démontrer que Vermeer avait un grand problème sexuel, et il en arrive à dire que Vermeer avait peur des femmes. Or, comment peut-on avoir peur des femmes et en faire 12 enfants à sa propre femme? J'ai toujours posé la question, c'est que là, il y avait une appropriation, et peut-être c'était l'auteur qui avait peur des femmes, plus que Vermeer. Puis alors, ce qui m'agaçait surtout, c'était la banalité réaliste, hein, c'est-à-dire le fameux réalisme de la peinture hollandaise et le réalisme de Vermeer. Étant donné que je ne pense pas qu'il y ait de réalisme avant Courbet, hein, il y a autre chose, hein, il y a un peintre de la réalité, mais il n'y a pas de réalisme, j'avais le sentiment que Vermeer n'était absolument pas réaliste. Et donc, je me retrouvais avec ma question, mais comment, historien que je suis, comment est-ce que je pourrais essayer de comprendre, entre guillemets, hein, d'essayer de me rapprocher, hein, de ce, entre guillemets, mystère de Vermeer, c'est-à-dire comprendre la singularité d'un artiste, Vermeer, non pas à partir de la mienne de singularité, mais à partir de son temps, c'est-à-dire de ses contemporains. Quel était l'écart de Vermeer par rapport à ses contemporains, qui fait que, bon, eh bien, Vermeer est un peintre hollandais comme les autres, mais curieusement, il a un statut exceptionnel aujourd'hui. Bien, c'est un des, considéré comme un des plus grands peintres, le plus grand peintre hollandais avec Rembrandt. Entre parenthèses, hein, il est curieux que dans son livre sur la peinture hollandaise, l'art de dépeindre, Svetlana Alpers fasse un très beau tableau de la peinture hollandaise, dont elle dit elle-même qu'elle ne peut pas y faire entrer deux peintres hollandais, qui sont Rembrandt et Vermeer. Le bien fondé d'un livre prétendant nous expliquer ce qu'est la peinture hollandaise et excluant de cette peinture Rembrandt et Vermeer me pose un problème sur la pertinence même de l'hypothèse de Svetlana Alpers. Donc, je reviens, comment comprendre Vermeer dans son temps, c'est-à-dire dans son écart par rapport à son temps. Alors, cela dit, mon manque de connaissances sur la chose aurait fait bien sûr que je n'aurais rien écrit, mais heureusement, Adam Biro m'a demandé de traduire le livre de John Michael Montias, intitulé maintenant Vermeer, une biographie. Et le travail de Montias, professeur américain, 25 ans de travail dans les archives hollandaises, lui a permis de rassembler plus de 400 documents concernant Vermeer et sa famille. En fait, le titre anglais, c'est un réseau social, le social web, hein, autour de Vermeer. Et dans ce que j'ai donc lu et traduit de cet énorme bouquin de Montias, il y avait trois données qui m'ont dit, tiens, je vais pouvoir commencer à réfléchir. Première donnée, Vermeer n'a nullement été un génie méconnu. Vermeer était un peintre très connu dans son temps, et que les visiteurs étrangers, eh bien, venaient voir à Delft dans son atelier, faisaient même le détour pour aller le voir à Delft, le célèbre monsieur Vermeer. On a deux ou trois témoignages qui montrent qu'on allait voir Vermeer dans son atelier à Delft. Donc, l'idée du génie méconnu ou inconnu est absolument faux. Deuxième correction, Vermeer meurt pauvre. Oui, sans doute, mais pour des raisons bien précises, et surtout, qui ne sont pas du tout des questions de mévente, etc., mais plutôt de revenus des terres de la belle-mère de Vermeer, mais ça serait une longue affaire anecdotique, mais surtout, Vermeer ne peint pas pour vivre. Et ça, c'est tout à fait rare dans la Hollande du 7e siècle, puisque les peintres, il y a un marché de l'art réel en Hollande, et que les peintres hollandais peignent pour vivre. Vermeer, non. Hein, il peint pour peindre. Il fait 3-4 tableaux par an, il ne reprend jamais une formule qui a eu du succès, et surtout, quand on vient le voir pour acheter des tableaux, il n'a rien à vendre. Il n'a pas un seul tableau à vendre. Hein. Les personnes qui viennent en acheter, non. Si vous voulez voir mes tableaux, allez en acheter, allez chez le boulanger du coin, où j'en ai mis en dépôt. Mais lui-même ne tient pas à vendre ses tableaux. Et puis, donc, il ne peint pas pour vivre. Et il n'accélérera jamais son rythme de peinture pour gagner plus d'argent, par exemple. Il peint toujours 3-4 tableaux par an. Et puis, troisième élément intéressant, mais complexe, c'est que Vermeer, dans le milieu hollandais protestant, eh bien, était un catholique. Un catholique converti, il s'est converti au catholicisme à l'âge de 20 ans, et un catholique convaincu, les documents au Rassembleur Montias le montrent incontestablement, et qui a vécu toute sa vie à Delft, dans ce qu'on appelait le coin des papistes, où étaient rassemblés les catholiques de Delft. Donc, il ne s'agit pas de dire que la spécificité de la singularité de Vermeer serait liée à son catholicisme, mais il y avait quand même quelque chose d'un peu troublant. Il n'est pas le seul peintre hollandais catholique, hein, il y en a d'autres, Jan Steen aussi étant un catholique, mais chez Vermeer, il y avait quand même là quelque chose d'intéressant. Et alors, il devenait possible pour moi de travailler sur Vermeer, et surtout, alors j'ai eu la chance d'aller passer quelques temps à Princeton, à l'Institut d'études avancées. Et là, les bibliothèques américaines sont merveilleuses parce qu'on peut en quelques mois, vraiment combler des lacunes considérables d'ignorance grâce à leurs services universitaires. Et j'ai lu en particulier beaucoup de choses. Et un livre qui m'a dit, hein, il fallait seulement que j'écrive sur Vermeer, c'est la thèse d'Arthur Willock, qui maintenant est conservateur au National Gallery de Washington, un des grands spécialistes de Vermeer, et qui a de très beaux chapitres sur la chambre noire, hein, l'emploi de la chambre noire par Vermeer. C'est la caméra aussi. Scoura, cet objet qui permet, avec un verre dépoli, hein, d'avoir déjà représenté en deux dimensions ce qu'on veut peindre. La caméra oscura, ou chambre noire, était très utilisée dans la Hollande du 7e siècle, déjà au 16e siècle, elle est utilisée, et Vermeer, comme tout le monde, comme tous les peintres de l'époque, utilise la chambre noire. Seulement, ce que a remarqué Arthur Willock, c'est que il l'utilise, mais pour en représenter les effets de manière déplacée. C'est-à-dire que, c'est très précis, dans une chambre noire mal réglée, hein, eh bien, vous avez ce qu'on appelle des gouttes de diffusion lumineuse, des sortes de taches lumineuses qui apparaissent. Hein. Un peu comme aujourd'hui qu'un appareil photographique, hein, quand il y a un reflet, hein, eh bien, ça fait une tache lumineuse sur la photo. Pour qu'il y ait une tache lumineuse, il faut que la lumière soit projetée sur une surface brillante et très réfléchissante. Sinon, il n'y a pas de tache lumineuse. Très bien. Il y a pas mal de taches lumineuses dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Il y en a en pâtier beaucoup chez Vermeer. On a parlé du pointillisme de Vermeer. Mais il se trouve que Vermeer les peint toujours, hein, là où elles ne peuvent pas apparaître. Vous ne pourrez jamais avoir de taches lumineuses sur une miche de pain. Or, regardez la laitière, il y a de très belles taches lumineuses sur une miche de pain au premier plan. Donc c'est faux. Aucun réalisme dans l'emploi de la chambre noire. Mais alors pourquoi Vermeer prenait-il la peine, hein, d'utiliser une chambre noire mal réglée, hein, pour avoir ces effets de diffusion lumineuse et de peindre l'effet de diffusion lumineuse là où jamais il n'aurait pu l'observer? Il y a donc là, et je me dis, ah, il y a quelque chose effectivement qui mérite. Vermeer n'est pas le peintre ingénu que l'on croit, c'est un peintre profondément médité et il faut regarder. Il faut regarder, regarder, regarder. Et je me suis posé en fait deux questions. Pourquoi un peintre fin? C'est ce qu'on fin schilder, on dit en hollandais. C'est un peintre qui peint avec des pinceaux très fins. Pourquoi peint-il flou, hein? Puisque précisément, si c'est un peintre fin, il devrait peindre fin. Ben, Vermeer est un peintre fin qui peint flou. Curieux, hein? Donc, il fallait que je trouve une réponse à cette question. Et deuxième question, qu'il y en a eu beaucoup d'autres après, c'est comment se fait-il que Vermeer interpose toujours des obstacles, hein, entre le spectateur et la figure qu'il représente? Vous avez, au premier plan d'un tableau de Vermeer, très 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 souvent, un tapis, une table, une chaise, une tenture, hein, qui font obstacle entre le principal, qui est représenté là-bas, hein, à mi-distance ou au fond, et le regard du spectateur qui ne peut jamais atteindre directement l'objet représenté. Alors, il fallait regarder, essayer de comprendre comment c'était fait, d'autant plus que, comme l'a dit un de ses bons spécialistes, Vermeer n'avait pas d'imagination. Alors qu'est-ce que ça veut dire, pas d'imagination? C'est quand même un con de dire ça de Vermeer. Ce qui veut dire, c'est que Vermeer n'invente pas un seul sujet original. Il n'y a pas un thème original chez Vermeer. Tous les thèmes représentés par Vermeer sont des thèmes absolument courants de la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Et donc, l'originalité de Vermeer, sa singularité, elle est évidemment dans la mise en œuvre, hein, de cette banalité thématique. Et alors, à partir de ces questions, j'ai eu des surprises intéressantes parce que, en plus, elles sont difficilement... C'est pas de l'interprétation arbitraire, c'est vraiment en regardant que surgit finalement une cohérence du tableau. Alors très rapidement, il y a deux cohérences principales qui m'ont semblé surgir. C'est que Vermeer peint des scènes d'intérieur. En ce sens, il est banal, hein, comme la peinture du XVIe siècle, c'est une peinture de scènes d'intérieur. Mais il y a très peu de scènes d'extérieur de Vermeer. Il y a la vue de Delft, la célèbre vue de Delft, et la ruelle. C'est tout ce qu'on a comme scène d'extérieur dans le catalogue de Vermeer, ce qui est très peu par rapport à ses contemporains. Et ensuite, dans les scènes d'intérieur, Vermeer peint le dedans du dedans. Il ne peint pas seulement l'intérieur, mais il peint le dedans du dedans. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, il y a des fenêtres, souvent, chez Vermeer. Ces fenêtres sont ouvertes, mais vous ne verrez jamais l'extérieur. Elles sont ouvertes de telle sorte que il y a l'extérieur, mais on ne le verra jamais. On est dans le dedans. Hein, on est dans le dedans. Et dans le dedans du dedans, pourquoi? Parce qu'on a ces obstacles visuels au premier plan. C'est-à-dire qu'on est non seulement dans la maison, l'extérieur est exclu, il est évoqué, mais jamais visible. Mais pour nous-mêmes, entre nous et le personnage qui est là, il y a un obstacle, c'est le dedans du dedans. Donc, la problématique ou la tension de Vermeer, à la différence de beaucoup de ses collègues, n'est pas entre le monde privé et le monde public, l'intérieur et l'extérieur, mais à l'intérieur de l'intérieur, hein, à l'intérieur du monde privé, celui de l'intimité et du privé, hein, l'intime dans le privé. Et deuxième surprise qui me fascinait également, c'est que cette intimité, ça est entre lié, cette intimité, eh bien, elle est présentée à la fois comme extrêmement proche, tout près de nous, et absolument inatteignable. Comment je peux le dire? Eh bien, simplement par les constructions perspectives de Vermeer, qui était réputé au 7e siècle comme un maître en perspective, ce qu'on oubliait par la suite. Tous les tableaux de Vermeer sont construits au point de la perspective de la même façon. C'est-à-dire la ligne d'horizon, c'est-à-dire la ligne d'horizon géométrique, hein, qui correspond à l'œil, à notre œil à nous de spectateur, est extrêmement proche du niveau de l'œil des figures peintes. Mais il est toujours un petit peu plus bas. Donc nous sommes au plus près du regard de la figure peinte, mais nous sommes décalés, très légèrement décalés par rapport à cette figure peinte, et donc nous sommes tout près de son regard, mais nous ne partageons pas le regard de la figure. Le meilleur exemple, en fait, je m'en suis rendu compte après, c'est justement la dentelière. La dentelière, eh bien, allez la revoir, il y a un point extrêmement précis dans la dentelière, c'est le fil. Le fil dentelière est d'une précision, d'une finesse extrême. Mais c'est le seul point précis. Tout le reste est flou, en particulier le premier plan est complètement flou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous regardons comme la dentelière, le fil, nous regardons ce que regarde la dentelière, mais comme notre regard, par ailleurs, est plus bas que le sien, nous ne voyons pas ce qu'elle fait. Hein, ce qu'elle fait nous échappe, vous ne verrez jamais la dentelle qui est en train de faire la dentelière. Or ça, c'est exceptionnel, parce que quand on peint une dentelière en Hollande du 7e siècle, c'est pour montrer la dentelle, et chez Vermeer, on ne la verra jamais. Donc nous sommes au plus près hein, de son regard, de son intimité, de ce qu'elle fait, mais elle nous échappe. Ça nous échappe absolument. Et c'est là, à mon avis, que se trouve le ressort du mystère Vermeer. Hein. Ce mystère, en fait, il est d'abord construit comme un secret. Je dirais, c'est un secret délibérément construit par le peintre, un secret du personnage dont nous sommes, secret, nous sommes les destinataires exclus, et dont le dépositaire est le tableau. Le tableau est le dépositaire du secret du personnage. Autre exemple, c'est la liseuse, hein, la fameuse liseuse qui est à Dresde. Eh bien, Vermeer, vous savez, cette jeune femme, debout près d'une fenêtre, on voit son visage reflété dans le carreau, on ne voit rien à l'extérieur, elle lit une lettre, au premier plan, une table avec un tapis, et puis un panier de fruits qui fait obstacle, et puis un rideau hein, qui va jusqu'à un certain point. Un rideau vert peint, comme très banal, le rideau vert au 17e siècle en Hollande. Seulement, on a constaté que Vermeer avait rajouté ce rideau. Au départ, sur le mur, il y avait ce qu'on appelle un amour postier, c'est un amour tenant une lettre qui explicitait le contenu de la lettre lue par la liseuse, c'était donc une lettre d'amour. Et ensuite, Vermeer a renoncé à ce qui était trop explicite. À la place, il a repeint un mur, et puis il a peint le mur, il a caché le tableau en repeignant le mur, et il a tiré un rideau. Et ce rideau, jusqu'où va-t-il le rideau hein? Il a tiré jusqu'au point très 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 précis, le point de fuite de la construction géométrique. Alors le point de fuite, c'est la position de notre œil à nous. Théorique. Donc ce rideau tiré jusqu'au point de fuite nous indique que nous ne voyons pas. Ou que demain nous ne voyons pas tout, que nous voyons du caché. Maintenant, s'il fallait continuer l'analyse, et puis on a seulement qu'une esquisse, eh bien c'est que ce mystère, par ailleurs, il n'est pas sans profondeur, sans écho ou sans résonance. Parce que le mystère de Vermeer, il se fonde aussi non seulement sur ce secret, mais il se fonde aussi sur une véritable théorie de la peinture. Hein. Vermeer a une théorie de la peinture extrêmement précise, et celle-là, il m'a fallu du temps pour la reconnaître, mais ensuite j'ai bien reconnu, hein, elle est exprimée par Vermeer dans aucun texte, puisqu'on n'a aucun texte de Vermeer, mais dans son tableau, l'art de la peinture, hein, qu'il appelait lui-même l'art de la peinture, c'est le nom qu'il donne à ce tableau, et qu'on connaît malheureusement parfois sous le nom de l'atelier du peintre. Mais c'est pas l'atelier du peintre, il est à Vienne, vous savez, c'est le tableau avec un peintre vu de dos, devant une carte géographique, et en train de peindre dans l'allégorie de l'histoire, dans le fond c'est le peintre et son modèle devant une carte géographique. Eh bien, si on regarde attentivement ce tableau, si on s'interroge sur la construction du tableau, sa composition, les enjeux du tableau, on constate que Vermeer, peintre hollandais du XVIIe siècle, maintient tout à fait la grande conception de la peinture classique, c'est-à-dire la peinture comme grande peinture, comme peinture d'histoire et peinture de connaissances démontrées. Comment dire ça pour Vermeer, qui est un peintre de scènes d'intérieur? Eh bien, c'est que l'art de la peinture, un, son titre l'indique, une allégorie pour Vermeer. Deux, c'est un tableau qui était peint par Vermeer pour lui-même, hein, qu'il n'a jamais montré à personne, qu'il n'a jamais surtout vendu à qui ce soit, alors même qu'on venait le voir pour acheter les tableaux. C'est un tableau pour lequel sa veuve et sa belle-mère se sont battues de manière à le conserver avec elle. C'est un tableau qui était très très investi, hein, par Vermeer et par la famille de Vermeer. Or, que voit-on dans ce tableau? Apparemment, c'est tout simple, un peintre peignant son modèle. Mais dès qu'on commence à regarder, ça devient plus compliqué. Parce que, d'abord, ce peintre, qui est-ce? Il est de dos. Alors on dit c'est Vermeer. Attendez, mais comment a-t-il fait pour se peindre de dos? Rien ne me dit que c'est Vermeer. Bien sûr, il a un costume que Vermeer porte dans un autre tableau de jeunesse. Mais il se trouve que ce costume est démodé. Il a 40 ans d'âge, on ne porte plus des costumes comme ça en Hollande à la date du tableau. Puis qu'est-ce qui me dit que Vermeer n'a pas mis à sa place un ami ou qu'elle a fait porter son costume, etc. Donc, je ne sais pas qui est le peintre. Ensuite, il y a des anomalies étranges dans le tableau. Parce que, par exemple, le peintre est assis de dos et il est en train, sur un petit format, de peindre l'allégorie de l'histoire. Or, si vous avez le tableau dans les yeux, ce peintre en est à l'esquisse, hein, il y a juste un dessin sur le panneau de bois, et les premières masses de couleurs qui sont posées, et il peint avec un appui-main et le pinceau posé sur la toile. Or, il se trouve qu'on n'a pas besoin d'appui-main à ce stade de la peinture. L'appui-main, on a besoin à la fin du tableau, pas au début. Donc pourquoi un appui-main à ce moment-là? Deuxièmement, il y a un dessin qu'on voit très bien sur le panneau. Or, Vermeer n'a jamais fait un seul dessin. Il n'y a pas de dessin préparatoire sur les tableaux de Vermeer. Il n'y a pas de ligne dans les tableaux de Vermeer, même caché ensuite par la peinture. Donc, ce peintre qui est là ne peint pas ce que peint Vermeer, puisqu'il peint une allégorie, hein, de l'histoire, ce que ne fait pas Vermeer. Il ne peint pas non plus comme Vermeer. Hein, donc c'est quand même curieux. Et pourtant, c'est Vermeer. Donc il y a là y a un élément extrêmement intéressant. Je dirais, pour aller vite encore une fois, qu'il faut bien regarder le tableau. Donc il y a une carte géographique magnifiquement reproduite, mais illisible, parce que la lumière empêche de la voir. On peut lire une seule chose. C'est « Nuova Descriptio ». Nuova Descriptio, qui est en haut, c'est dans la bande, là, Nuova Descriptio, parce que le reste est caché, on ne peut pas. Mais Nuova Descriptio, c'est le titre du tableau. Hein, le titre au sens où on est au Moyen-Âge, le titulus. Hein, ce qui, dans le tableau, indique le sens du tableau. Cet art de la peinture, comme l'appelait Vermeer, c'est une Nuova Descriptio, et Descriptio, ça veut dire peinture. C'est-à-dire que Vermeer a parfaitement conscience que, tout en se situant dans la grande tradition de la grande peinture d'histoire, d'où la muse de l'histoire et la carte géographique, parce que la géographie, comme le disent les gens du 7e siècle, c'est l'histoire mise devant les yeux, donc histoire et géographie, donc il se situe dans cette tradition, mais il ne peut plus la peindre, il n'a peint plus en Hollande au 7e siècle, et il fait en revanche une nuova descriptio, c'est-à-dire de quoi la peinture de Vermeer est-elle la connaissance démontrée? De la lumière. De la lumière, c'est ça la science, hein. C'est-à-dire que l'aspect des choses est le prospect, aurait dit Poussin, hein, et le prospect de Vermeer. Le prospect, c'est quand on considère attentivement, et c'est un office de raison, dit Poussin, par rapport à l'aspect des choses, eh bien le prospect de Vermeer, c'est l'aspect lumineux des choses. Et cette science de la lumière, elle a pour résultat, et là c'est un paradoxe magnifique, que la lumière éblouit la connaissance de ce qu'elle montre. C'est-à-dire que quand la carte géographique est éclairée par la lumière, eh bien on ne peut plus lire la carte géographique. C'est normal, c'est une carte de peinture, c'est pas une carte à lire, c'est une carte à voir, une carte peinte. Mais cette lumière qui éblouit, qui fait voir, et qui éblouit la connaissance de ce qu'elle montre, alors elle permet à ce moment de passer, mais je vais m'arrêter là, elle permet de passer à ce qui était, je crois, vraiment la métaphysique de la lumière chez Vermeer. On a souvent dit que Vermeer était le peintre de la lumière, sous la lumière de Vermeer, etc. Oui, et pour cause, il y avait la métaphysique de la lumière chez Vermeer, dont je pense l'équivalent, hein, au point de vue philosophique, c'est Kepler. Hein, c'est chez Kepler qu'on trouve l'expression d'une lumière spirituelle, hein, qui est la lumière de Vermeer. Et à ce moment-là, mais je m'arrête là-dessus, à ce moment, bien sûr, la piste s'ouvrait sur la dimension catholique de Vermeer. Hein. C'est-à-dire que le mystère de Vermeer, hein, c'est en fait à la fois le secret, délibérément construit dans le tableau que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi le fait que la peinture, dans sa grande tradition qui était catholique, eh bien, était susceptible de contenir des présences vivantes, mystérieusement, et de faire des miracles. Chez Vermeer, ce n'est pas de miracle, il s'agit de la possibilité qu'a la peinture d'incarner quelque chose. Et c'est là, je crois, pour moi, finalement, que je trouvais le mystère, enfin, la réponse au mystère de Vermeer. Le livre, dans sa version anglaise, avait le bon titre, hein, « Je suis que je souhaitais ». En français, on l'appelait « L'ambition de Vermeer », ça va. Mais pour moi, le titre, c'était « La foi de Vermeer ». Et le titre anglais, c'est « Faith in Painting », « La foi dans la peinture ».
Histoire de peinture, Daniel Arras. Réalisation Arthur Gerbeau, Jean-Michel Bernaud, Jean-Claude Loiseau.